Les podcasts de l'Institut de France. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
Si je vous parle de Mozart ou de Pascal, eh bien vous voyez des notes qui dansent sous les doigts d'un enfant. Vous voyez aussi des équations gribouillées fiévreusement par un adolescent visionnaire. Ce qui a uni ces deux figures, eh bien, c'est leur génie précoce. Ces enfants prodiges ont marqué leur temps par leur capacité à embrasser, avant même l'âge adulte, des univers intellectuels ou artistiques d'une rare complexité. Le génie de ces enfants précoces a conduit notre invité de la semaine à écrire un livre sur le sujet. Yves-Marie Bercé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Vous y avez été élu parce que vous êtes un grand spécialiste de l'époque moderne, autour donc du 16e, 17e, 18e siècle. L'année dernière, vous vous intéressiez aux ministres haïssables de cette époque. Mais aujourd'hui, ce sont les enfants prodiges de cette même période qui vous ont intéressé. Qu'est-ce qui vous a mis sur cette piste ?
Chaque époque a des convenances, des idées. Quand on en fait l'histoire, d'habitude, les historiens s'attachent aux aspects politiques, militaires, événementiels. Alors, bien sûr, c'est très important, c'est ce que la postérité retient. Mais en fait, je trouve plus difficile et plus pertinent, plus intéressant de rechercher ce qui correspond à l'imaginaire d'une époque, la manière dont il se représente la vie, le comportement, mais aussi les convenances, ce qu'il faut faire dans telle ou telle circonstance, ce qu'on appelle les mœurs, si vous voulez. Or, le fait qu'il puisse y avoir dans l'ensemble de l'humanité, parmi des millions d'enfants, certains enfants qui dépassent les normes attendues, qui méritent l'admiration, c'est un petit événement culturel, si vous voulez. C'est quelque chose qui peut passer, s'oublier, réapparaître. En ce sens, c'est un événement intellectuel, un statut culturel. Donc, vous voyez, c'est un élément d'imaginaire, et je cherche donc à reconstituer ce qu'était un enfant prodige.
Et justement, je voulais m'arrêter sur ce terme-là, d'enfant prodige, parce que le terme fait écho à d'autres expressions dont nous sommes plus familiers aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle plutôt d'enfant précoce, on parle même aussi d'enfant HPI, à haut potentiel intellectuel. Est-ce qu'il faut comprendre la même chose derrière ces termes, enfin, c'est-à-dire des enfants qui ont des capacités intellectuelles hors du commun ?
Et qui dépassent la nature, qui sont au sommet, si vous voulez, effectivement, des possibilités humaines. Et alors, c'est une nouveauté du XVIe siècle. Pourquoi ? Parce que le XVIe siècle, c'est le moment de la découverte des océans, des nouveaux continents. Donc, on découvre des peuples inconnus qui vivent à moitié nus ou qui ont des mœurs que l'on suppose barbares et donc qui sont proches de l'animalité, enfin, qu'on n'avait jamais imaginé auparavant. Et puis, d'autre part, on va rechercher le comble, si vous voulez, de l'humanité avec, donc, les aimants, les hommes les plus illustres, les enfants les plus extraordinaires. Ces enfants extraordinaires n'avaient pas été regardés, n'avaient pas été admirés autrefois, par exemple dans l'Antiquité, parce que d'un enfant précoce, qui raisonnait mieux qu'on ne pouvait imaginer à son âge, qui était sérieux, savant, en latin on disait « puer senex », un enfant vieillard, un enfant vieilli prématurément. C'est-à-dire qu'il était plutôt un peu pitoyable, un peu bizarre et pas admirable. Vous voyez, c'était un enfant trop vieux.
C'était mal perçu.
Un jeune vieillard, vous voyez. C'était mal perçu. Et alors, au contraire, là, au XVIe, XVIIe siècle, on voit pas d'exemple, si vous voulez, au Moyen-Âge, aussi évident. Il y a certes des enfants héroïques, des enfants extrêmement sages ou saints, par exemple, mais l'enfant génial, c'est à ce moment-là qu'il va devenir un objet curieux que les rois, les princes vont se disputer pour le connaître.
Et est-ce qu'il existe des périodes dans l'histoire plus propices, plus fertiles à l'éclosion de petits génies ?
Non pas à l'éclosion, mais à la reconnaissance sociale. Vous voyez, parce que c'est ça, il y a l'idée au fond de ce livre, c'est que pour être un enfant prodige, il suffit pas d'être génial. il faut que la famille, d'abord, le voisinage, et puis les grands personnages de l'époque, le reconnaissent, le visitent. À ce moment-là, ça devient un enfant prodige, vous voyez. L'idée, donc, c'est que l'enfant génial, il faut qu'il soit reconnu. Être un enfant prodige, c'est un statut culturel.
Alors, quand on parle d'enfant prodige, on a tous en tête des images de Mozart, par exemple. Il y en a beaucoup d'autres. Vous consacrez tout un chapitre, par exemple, à Pic de la Mirandole, une personnalité géniale aussi. Qui est-il exactement ?
Alors, Pic de la Mirandole, aujourd'hui, et puis depuis des siècles, c'était le parangon le plus extrême savoir, quelqu'un qui savait tout. On dit les savants comme Pic de la Mirandole. La Mirandole, d'abord, c'est une petite cité de l'Italie du Nord, de la plaine du Pô, et qui avait une souveraineté qui dépendait des ducs de Ferrare, entre Bologne, Venise et Ferrare. Voilà. La Mirandole, c'est petite cité. Les seigneurs de la Mirandole, c'est des seigneurs puissants qui avaient un château, qui était célèbre comme condottière, comme chevalier qui mettait leur épée au service du pape de Venise ou autre. Le seigneur de la Mirandole est donc un grand guerrier. Et alors, dans les noblesses italiennes du XIVe, XVe siècle, la connaissance des lettres ne répugne pas à la noblesse. Ce sont des gens qui sont aussi des lettrés, à la différence, si on peut dire, des noblesses françaises ou anglaises qui étaient moins instruites. Alors, ces grands seigneurs sont lettrés. Et le jeune Giovanni Pico della Mirandola est le dernier d'une famille de 4 ou 5 enfants. C'est ce petit dernier. Et sa mère appartenait elle aussi à une très grande noblesse. C'était son dernier fils. Et il était sans doute d'une intelligence stupéfiante, comme peut le reconnaître une mère à un enfant de quelques mois, si vous voulez, ou déjà des capacités de langage qui sont merveilleuses pour un tout petit enfant.
Plusieurs langues même, il parlait
Ah oui, attendez,
latin,
quand il y aura 3 ans, 4 ans, mais même déjà à quelques mois, sa mère, bien sûr, décèle que c'est un enfant extraordinaire, donc elle va le chérir. Elle le destine à l'Église, bien sûr, comme on peut l'imaginer dans une grande famille. Elle pense qu'il va pouvoir faire des études ecclésiastiques, accéder à une charge de prélature. Les autres enfants sont dans leur carrière.
Ils sont déjà grands.
Voilà. Et elle accompagne son fils à Bologne, à l'université de Bologne, où elle l'engage donc dans des études théologiques, des études destinées à la prêtrise. Elle meurt quand il a 10, 11, 12 ans, je ne sais plus exactement. Et lui, il est certainement extrêmement affecté par la mort de cette mère précieuse, mais il va faire des études de lettres, si vous voulez, et il compose des vers libertins un peu, et qu'il détruira plus tard, dont il aura honte. Mais dès l'âge donc de 12, 13 ans, il va dans les universités. Comme il a d'une illustre famille, il est reçu à la cour de Ferrare, à la cour de Mantoue, à la cour de Florence, et il se fait remarquer par sa capacité de résoudre toutes les difficultés intellectuelles, de parler bien sûr le grec, le latin, et de composer des traités de philosophie. Voilà. Et alors, l'investissement, si vous voulez, universitaire au Moyen-Âge, elle devait être capable de omnerecibili, de toutes les choses susceptibles d'être connues, maîtriser tous les champs de la connaissance. Alors, Pic de la Mirandole était par excellence, si vous voulez, correspondait à ce modèle. Il répondait sur tous les domaines de la connaissance.
Une véritable encyclopédie.
Voilà. Alors, c'est comme ça qu'il devient, il meurt, comme beaucoup de gens, on meurt trop jeune, une vingtaine d'années. Mais pendant toute son adolescence, si vous voulez, il a été une merveille. Un de ses neveux a écrit une biographie après sa mort. C'est comme ça qu'il est devenu, pour la postérité, l'espèce de champion universel du savoir. On dit savant comme Pic de la Mirandole.
Il a mis son génie au service de l'humanisme. Et vous avez parlé du rôle de sa mère, qui était très engagée dans son éducation. Il faut insister sur ce rôle de la famille, parce que beaucoup de ces enfants prodiges sont issu de familles assez aisées, aristocratiques. Ça, c'est le premier point commun de ces enfants prodiges qu'on reconnaît à l'époque.
C'est-à-dire, c'est assez évident que l'aptitude à l'étude, la fourniture de livres, de précepteurs, de maîtres, le maintien d'un train de vue important ne peut correspondre qu'à un certain niveau social élevé. Donc, il y a, certes, on va trouver des enfants dans les musiciens qui sont originaires de familles très simples et pauvres, mais des familles simples et pauvres, mais où il y a une tradition musicale. Vous voyez, par exemple, beaucoup plus tard, Bellini. Son père était un musicien de paroisse à Catane. Mais ce sont des familles pauvres, mais des familles qui sont déjà spécialisées dans la musique, vous voyez, même s'ils exercent tout autre métier.
Il y a déjà un petit héritage.
Alors, je crois que l'encadrement familial est très important pour le développement de la personnalité de l'enfant. Bon, c'est une évidence. Et puis, le rôle de la mère. Aujourd'hui même, quand on a des virtuoses musicaux célèbres et qu'ils consentent à raconter les souvenirs de leur enfance, on s'aperçoit que ils évoquent le rôle de leur mère, qui est déterminant, plus que celui du père. Enfin, c'est une évidence, ouais. Mais c'est plus intéressant de le constater historiquement.
Et on en revient toujours à cette question éternelle entre l'inné et l'acquis, dans la mesure où, voilà, où beaucoup de ces enfants ont grandi dans des foyers assez lettrés. Est-ce qu'on sait la distinguer, cette part éducative ?
Grandir dans une famille qui est déjà destinée, si on peut dire, à un investissement intellectuel particulier, on pourrait dire que c'est une sorte d'héritage génétique. Parce qu'on ressemble aux parents, aux grands-parents, etc.
C'est comme ça qu'on
explique. Ces sortes de dispositions. Mais c'est également un élément d'éducation. Vous voyez, donc, la querelle, le partage entre l'inné, ce qui vient d'un héritage génétique, et l'acquis, ce qui vient de l'éducation, en fait, converge, se réunit. Puisque si vous êtes dans une famille déjà spécialisée, on peut imaginer que c'est à la fois l'héritage de plusieurs générations, transmettant certaines capacités, et puis aussi du fait que on est dans un milieu qui est déjà engagé dans les lettres, dans la musique ou autre.
Qui est déjà propice. Alors, on comprend voilà, que le poids de la famille est important, de la transmission aussi, mais parfois, le génie s'exprime mieux en faisant éclater les normes et les règles. Est-ce que parfois les enfants prodiges sont des enfants rebelles ?
Oui, des enfants rebelles, c'est même fréquent, on dira c'est freudien et classique, le conflit à l'adolescence avec le père, l'affirmation de la personnalité contre un peu une réaction contre la toute-puissance des parents. Mettez-vous à la place d'un notable du XVIe ou du XVIIe siècle, ce monsieur est médecin, avocat, courtisan, il imagine pour son fils doué les mêmes fortes d'études. Donc il va pousser son fils à faire son droit pour être avocat ou notaire, ou acheter un office, ou bien en faire un prêtre. Et si le fils rechigne aux études et préfère s'isoler pour jouer de la mandoline, le père va se mettre en colère. Et alors, on a tout un tas de petites historiettes dans des musiciens célèbres où le père interdit à son fils d'avoir des instruments de musique et les cache. Ou encore, si l'enfant se cache et va jouer, alors c'est l'exemple de Handel ou de Gluck, il va pendant la nuit monter dans les combles et quand tout le monde dort, jouer de la mandoline et avec la complicité de la mère généralement. Et puis un jour le père s'en aperçoit et confisque les instruments ou confisque les bougies, parce que sans bougie il peut pas monter, si vous voulez. Alors voilà, bon, il y a tout un tas d'historiettes, oui, de ce genre.
Nicolas Poussin aussi, il a dû fuguer.
Nicolas Poussin, effectivement, son père voulait qu'il qu'il soit notaire. Lui, il voulait être peintre, dessiner. Il était originaire de Normandie. Ça, on est sous l'enfance de Louis XIV et on transporte au XVIIe siècle. Donc, il dessine. Il a eu reçu des leçons d'un peintre médiocre de troisième rang à Rouen. Et puis, il aspire à aller plus loin, à aller dans des écoles, dans des villes. Eh bien, il fugue, il s'en va, il disparaît de chez lui. Et il reviendra plus tard.
Alors jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de garçons, parce que les filles étaient exclues de la vie publique à l'époque, mais il y en avait aussi beaucoup qui ont fait parler d'elles. À l'époque, on ne connaît pas, par exemple, Élisabeth Jacquet. C'était une sorte de Mozart au féminin.
C'est une fillette qui, dès le plus jeune âge, a des aptitudes musicales, et pas seulement une jolie voix de cantatrice, mais qui est capable de composer. Alors, sur le statut intellectuel autorisé en quelque sorte aux filles, il y a bien sûr beaucoup à dire. On considère que les filles sont plus précoces et plus aptes, plus obéissantes aux modèles familiaux. Donc, dans ces deux directions, on leur reconnaît. On les écarte des études parce que ce serait impudique, immodeste, et donc elles ne font pas d'études de droit, elles ne font pas d'études de théologie. Il leur reste le chant musical qui leur a toujours été, dans toutes les civilisations,
attribué.
La voix féminine est admirée. Dans les plaisirs des cours, de la noblesse, les talents féminins musicaux sont promus.
Et c'est parfaitement
normal. Ils
sont
toujours reconnus. Et cette petite Élisabeth Jacquet, elle naît dans une famille, on est sous Louis XIV, c'est une famille de musiciens. Comment gagner sa vie quand on est musicien? C'est généralement obtenir la chaire d'organiste d'une église parisienne, ce qui est bien rémunéré. Son père, donc, est organiste et elle a un talent évident, et donc à l'âge de, je crois, 5-6 ans, elle donne des concerts. Et son père est assez réputé sur la place de Paris parce qu'il a écrit des manuels de pratique musicale, il donne des leçons dans l'aristocratie. Donc il parvient à faire jouer la petite, qui a 6 ans ou 7 ans, devant Madame de Montespan, la maîtresse de Louis XIV. On est en 1670 environ. Louis XIV est encore jeune et il a des jeunes maîtresses. Montespan est très belle et puissante à la cour. Et elle écoute la petite Élisabeth Jacquet et elle dit « elle va rester avec moi ». Et elle la garde pendant 3 ou 4 ans. On ne dira pas à son service, mais sous sa protection, c'est-à-dire que elle, dans toutes les réceptions que donne la Montespan, on fait chanter la petite Jacquet. Voilà. Et alors Louis XIV trouve ça merveilleux. Bon, alors la carrière de cette après-se mariée. Et ce qu'on remarque dans sa personnalité, c'est que elle n'est pas seulement cantatrice ou instrumentiste, elle compose. Alors là, l'idée, dans les préjugés contemporains, si vous voulez, c'est qu'une femme plus exécutante que composée, c'est une action de création, c'est supposé être exclusivement masculin.
Masculin, ouais.
Or, elle est compositrice.
C'est la première compositrice ?
Non, mais mettons que c'est beaucoup plus rare. Et elle épouse plus tard Monsieur de Laguerre, qui est un musicien aussi. Elle meurt vers 30 ans, mais elle a eu une carrière de création. Elle a vraiment eu une grande réputation pendant tout le règne de Louis XIV.
Mais vous disiez que c'était normal à l'époque que les femmes se distinguent dans les chants, de la peinture, de la musique. Est-ce qu'il y a des femmes qui arrivent à aller vers d'autres disciplines, comme je pense aux sciences dures, aux mathématiques,
voilà, alors
par exemple ?
Exactement. On voit un nombre non négligeable de filles géniales en mathématiques. Alors, quand si on est fort en maths, comment réussir au XVIe, XVIIe siècle bien tout simplement dans la banque, les changeurs, les hommes d'affaires, les prêteurs sont forcément des gens qui pratiquent les mathématiques. Et puis, au niveau des sciences, c'est les astronomes ou les astrologues. Avec l'environnement familial, une fille dont les parents ou les grands-parents sont des gens qui manient de l'argent, qui manient les chiffres, ou qui font des études mathématiques pour l'étude du ciel, elles baignent dans ce milieu et elles vont se distinguer. Il y a plusieurs cas en Allemagne, en Italie, d'épouses d'astronomes. Au départ, elles aident leur mari à prendre les notes, à faire des observations. Et puis, si elles sont plus savantes en mathématiques que le mari, elles le dépassent. Elles le disent pas, peut-être, mais enfin. Mais il y a plusieurs cas, alors, où là, on peut dire qu'il y a une sorte d'aspect plus sinistre, si on peut dire, des conditions féminines, où on voit des filles qui ont fait des découvertes astronomiques du temps et qui, elles ont des enfants, elles meurent en couche. Alors, bien voilà, le mari peut continuer plus longtemps.
Dimension à prendre en compte. Est-ce que tous ces enfants prodiges ne finissent-ils pas par agacer? Comment ils sont perçus? J'imagine que on les admire, mais est-ce qu'ils suscitent un peu de méfiance?
Il y a une sorte de méfiance, bien sûr, parce que le premier mouvement, c'est la fascination, l'admiration, le contraste entre un petit garçon, une petite fille, fragile, et qui, quand il prend un instrument ou quand il compose des poèmes en latin, fait beaucoup mieux que un vieillard spécialisé. Alors, il y a cette fascination, et puis vient aussi la suspicion, dans la mesure où il échappe aux normes. C'est le cas, par exemple, qui est raconté très souvent de Mozart. Quand Mozart a 7-8 ans, il commence à être promené dans les cours, il y a des mauvais esprits qui disent que c'est son père qui compose. Léopold Mozart, le père qui était déjà lui-même musicien réputé. La rumeur publique à Venise ou ailleurs en Florence, c'est de dire que c'est le père Mozart qui fait passer sous le nom de son fils ce qui est son œuvre. Et puis alors, il y a aussi une sorte d'envie méchante, c'est-à-dire qu'il y a l'idée générale que la nature ou la providence ou Dieu vous donne à la naissance un certain nombre de virtualités, de capacités. Chacun de nous a comme ça un bagage qui vient de naissance, mais qui est limité. Et si vous brûlez trop tôt vos cartouches, on peut dire, si vous brûlez la bougie de vos capacités, eh bien vous êtes promis à une mort précoce, parce que vous aurez brûlé, épuisé les capacités. Un enfant prodige va mourir à 16 ans ou 17 ans, et on va dire, mais c'est parce qu'il a épuisé, comme au jeu de cartes, si vous voulez, si vous jouez vos atouts tout de suite, bien voilà, vous perdez.
Vous êtes fini. Ouais. Mais justement, sur ces morts précoces, parce qu'il y a eu des morts prématurées d'enfants promis à un avenir brillant. Par exemple, l'enfant de Lübeck.
Oui.
C'était le fils d'un professeur d'allemand. Alors ça, je ne le connaissais pas. Oui. Qui était-il?
Alors,
qu'est-ce qui lui est
arrivé? C'est au XVIIIe siècle, c'est dans les 1750. C'est une famille, je crois, de réfugiés protestants d'origine française, établie en Allemagne. Le père est pasteur et extrêmement savant. Et l'enfant est réellement fabuleux, prodigieux.
Ouais.
À 3-4 ans, il sait parler le latin et le grec. Son père lui apprend comme un langage courant, à changer de plusieurs langues. Comment se passe souvent la petite enfance? Les enfants restent nourris au lait de la mère, à tête la mère, jusqu'à 3 ou 4 ans. C'était ahurissant.
Assez tardif.
Pour nous, aujourd'hui. Mais c'était recommandé. Le cas de ce petit enfant, à 4 ou 5 ans, est toujours allaité par sa mère. Et à un moment, il est envisagé, bien sûr, de le faire passer
sevrer,
à une nourriture...
De le sevrer.
De le sevrer, bien sûr. Et il meurt.
Ouais, il avait la santé fragile.
Il ne supporte pas le passage et il meurt. Alors, c'est une histoire abominable, si vous voulez. Et alors, elle a été racontée, enfin, ça a l'air d'être une fable, une imagination, mais non, on a des témoignages de professeurs d'université allemande qui ont étudié et connaissent parfaitement l'épisode.
Yves-Marie Berset, vous êtes historien. La question des sources est importante, bien sûr. Comment vous avez fait pour ce projet ? Parce que parmi les sources, il y a les biographies de certains grands hommes. On raconte leur enfance parfois a posteriori. Parfois, les biographes peuvent être aussi tentés de grossir le trait, exagérer sur des enfances. Comment,
voilà, mais comment Seller, on... c'est un genre littéraire. À partir du XVIIe siècle, il apparaît des histoires des mœurs, des dictionnaires des hommes illustres. Alors, spécialement en Italie, en Angleterre, en France aussi, il y a des compilations d'hommes illustres avec chaque fois un chapitre sur consacré l'enfance. Particulier à une enfance merveilleuse. Donc, il faut piocher dans ces énormes biographies et repérer les cas dans la mesure où on a cité Mozart ou Pascal. Je dirais que ce que j'apporte a été dit déjà 10 000 fois. Par contre, ce qui m'a plus intéressé, c'est des enfants prodiges inconnus et qui meurent trop tôt. Et on peut imaginer qu'il y a des enfants prodigieusement doués qui n'ont pas été reconnus. Ils ont peut-être été reconnus dans leur famille, mais c'est même pas certain. Et en tout cas, par la société. Et ils sont morts trop tôt, ils sont morts dans l'obscurité, et la postérité n'en retient jamais rien. Mais en même temps, il y a eu, spécialement en Italie, des recueils de cas, ou des centaines. Je dirais que j'ai dépouillé cette littérature italienne du XVIIIe siècle, qui est très abondante.
Et vous leur rendez hommage aussi dans
bien, je montre, si vous voulez, ce qui est... Parce que travailler sur Jean-Sébastien Bach, qui est un enfant prodige,
aussi, oui.
Sur Mozart ou sur Bellini, ou Handel, c'est se ranger, découvrir des choses qu'on sait très bien. Or, j'ai tenté de m'attacher à des inconnus, enfin à des gens qui ne sont pas passés à la postérité. Parce qu'on peut dire aussi, même aujourd'hui, qu'un enfant très doué dans la petite enfance, qui dépasse tout à fait les normes, en vieillissant, il ne va se trouver concurrencé par des contemporains de sa génération, moins doués, mais plus travailleurs peut-être, et qui arrivent, à l'âge de 17 ou 18 ans, plus laborieusement, au même niveau. De sorte qu'à ce moment-là, le génie fabuleux de l'enfant prodige se trouve concurrencé. Il est ramené à une norme, si vous voulez.
Dernière question, Yves-Marie Berset. Qu'est-ce qui différencie les enfants précoces d'aujourd'hui des enfants prodiges d'hier ? Est-ce qu'on a les mêmes critères ? Est-ce qu'on prête plus attention aux enfants prodiges d'aujourd'hui ?
Alors voilà, on devrait évidemment penser, et on a raison, d'imaginer qu'il y a beaucoup plus de possibilités d'enfants prodigieusement doués, très tôt, précocement, aujourd'hui. Parce que l'éducation est plus répandue, parce qu'au cours du 19e siècle, on a vu se créer des théâtres, des universités, des nouvelles formes d'art. Et donc, il y a tout un tas de champs dans lesquels des talents précoces peuvent s'épanouir. Mais je dirais qu'ils attireront moins l'attention, peut-être parce que justement, ils sont beaucoup plus nombreux. Je veux dire, ils se sont... Leur génie, en quelque sorte, s'est normalisé. Alors, il est venu, au cours du XXe siècle, dès le début du XXe siècle, des écoles spécialisées. C'est aux États-Unis que ça commence vers 1900-1910, pour des gifted children, des enfants doués, surdoués, on dit en France. Alors, ça a été développé aussi dans les années 20-30, dans les régimes totalitaires, allemands ou soviétiques, de manière qui a paru scandaleuse, de sorte que, si vous voulez, l'idée d'une éducation inégalitaire est devenue un rejet politique. Dans les années pur et proche de nous, où il y a, spécialement là encore aux États-Unis, des études sur les formes d'intelligence, sur la multiplicité, la diversité des formes d'intelligence. Alors on pense bien sûr à l'intelligence des langues, l'intelligence mathématique, la capacité d'écrire, etc. Mais il y a des formes d'intelligence qui ne sont pas, on dira, académiques,
l'intelligence
qui ne sont
émotionnelle.
Pas reconnues par les disciplines universitaires, qui sont plus originales. Or ça, ces enfants risquent d'être méconnus. C'est en ce sens qu'il serait plus opportun d'essayer de déceler ces intelligences spécifiques et de les protéger, dans la mesure où ils sont mêlés à la multitude des autres enfants qui n'ont pas les mêmes curiosités, les mêmes aptitudes, ils risquent de se décourager ou même d'être rejetés. C'est en ce sens que donc les classes de niveau et puis même des classes d'hyper-niveau doivent même effectivement être protégées.
Mais ça pourrait faire l'objet d'un autre livre.
Mais ça, c'est pour les sociologues, les historiens de l'éducation contemporaine. Moi, je suis spécialiste du 16e au 18e siècle et je crois que ça correspond effectivement à un moment où l'enfant prodige a eu une image très spécifique, dont Mozart, mettons, est le parangon le plus évident, mais qui, ensuite, s'est un peu obscurci aujourd'hui.
Merci beaucoup, Yves-Marie Berset. Je rappelle le titre de votre livre, Le destin des enfants prodiges, 16e-18e siècle, et c'est à retrouver aux éditions du Cerf.
Merci.
Merci à vous.
Les podcasts de l'Institut de France.